Bonsoir. Les bureaux politiques de la majorité présidentielle disent avoir constaté l'auto-exclusion du groupe de sept partis qui ont adressé une lettre ouverte au chef de l'État et leur demande d'en tirer les conséquences. Cette décision découle de la réunion du bureau politique de la majorité présidentielle tenue ce mercredi à Kinshasa, à laquelle a participé le G7. En réaction, les sept partis politiques affirment avoir quitté la salle après avoir constaté les refus du bureau politique d'aborder les fonds contenus dans la lettre adressée au chef de l'État. Comment analyser cette situation? Nous en parlons avec Franklin Tchamala, il est communicateur de la majorité présidentielle. Bonsoir, monsieur Franklin Tchamala.
Bonsoir, mon frère Guy Maté.
Didier Moluccio, il est député national et cadre du MMSR. Il est secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle. Bonsoir, monsieur Didier Moluccio.
Bonsoir.
Et professeur Joseph Moudimbi, il est professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. Bonsoir, professeur Joseph Moudimbi. Voilà, il va nous rejoindre. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Okapi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Les relations sont rouillées entre le G7 et le reste de la majorité présidentielle. Le bureau politique de cette plateforme a décidé ce mercredi de l'auto-exclusion de ces sept partis qui ont écrit une lettre ouverte au président Joseph Kabila, lui demandant de garantir le respect absolu de la Constitution et favoriser l'alternance politique pacifique. Les bureaux de la majorité de la MP leur demandent d'en tirer les conséquences. Écoutez Lambert Mende, membre du bureau politique de la majorité présidentielle, au téléphone d'Innocent Olinga.
Nous avons siégé avec les auteurs de cette lettre dans l'espoir de pouvoir débattre avec eux du contenu de celle-ci, mais nous avons constaté au cours de débat qu'ils se sont eux-mêmes mis en marge de notre famille politique. Ils ont même physiquement quitté le lieu de la réunion, et ce qui nous a amené à la conclusion qu'ils se sont auto-exclus de notre famille politique, la majorité présidentielle.
Et vous avez décidé qu'ils tirent les conséquences. Ça veut dire que ceux qui sont au gouvernement doivent démissionner, de même pour ceux qui sont au bureau du Parlement?
Il est évident qu'il s'agit là de conséquences qui coulent de source. Lorsque vous appartenez à une majorité, vous exercez certaines fonctions de par cette qualité de membre d'une majorité. Dès que vous quittez cette majorité, il appartient à vous-même ou à par exécution de la loi aux institutions auxquelles vous appartenez d'en tirer les conséquences.
La situation actuelle de la République démocratique du Congo reste le vrai défi nécessitant de vraies réponses. Quant à l'exclusion ou l'auto-exclusion, il n'en est rien d'autre qu'une distraction. C'est ce que pense Christophe Lutundula, président de l'Alliance des démocrates pour le progrès, ADP-MSDD. Il l'a dit ce mercredi à Mimi Ngumba Mulongo.
Exclusion, auto-exclusion, et que sais-je encore? Ce n'est pas ça le problème de fond. Le problème de fond et la situation actuelle de notre pays, avec tous les défis majeurs de caractère politique auxquels notre peuple est confronté et dont la solution est importante pour garantir un avenir meilleur. Vous aurez prononcé les auto-exclusions, les exclusions, mais ce problème demeure. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que à travers cette décision d'auto-exclusion prise ailleurs, on a résolu ces problèmes. Bien au contraire, ça crédite la thèse selon laquelle il n'y a aucune volonté politique de résoudre le problème auquel le pays est confronté aujourd'hui, qui s'appelle respect de la Constitution.
Les sept partis politiques de la majorité présidentielle signataires de la lettre au président de la République exclus ou auto-exclus de cette plateforme ce mercredi. Mais quel poids politique représente chacune de ces formations politiques au sein du Parlement et à l'Assemblée nationale en particulier? Réponse de Mimi Ngumba Mulongo.
Le mouvement social pour le renouveau, présidé par Yves Mobando-Yogo sous l'autorité morale de Pierre Lumbi, est le deuxième parti de la MP au sein de la Chambre basse. Il compte à lui seul 32 députés nationaux. Membre du G7 aussi, l'Alliance pour le renouveau du Congo, Arc d'Olivier Kamitatou, a 15 élus nationaux. Quant à l'Union nationale de fédéralistes du Congo, UNAFEC, parti cher à Kyungu Akumwanza, il dispose de 8 représentants à l'Assemblée nationale. Sachez que l'auto-exclusion du bureau politique de la MP a frappé aussi l'Alliance des démocrates pour le progrès, qui compte un seul député national, à savoir son président Christophe Lutundula. Le parti démocrate chrétien de José Ndundo lui dispose de 8 élus nationaux au sein de l'Assemblée nationale. De son côté, Banza Malobadani, qui préside l'avenir du Congo ACO, a 9 députés dans la chambre basse. Et pour terminer, le parti cher à Charles Mwando Simba, Union nationale des démocrates fédéralistes, compte 5 députés élus. Tout calcul fait, hormis les sénateurs, le G7 compte 78 députés nationaux.
Franklin Tchamala, je rappelle que vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Lorsque, par la bouche du ministre Mende, le bureau politique de la majorité présidentielle affirme que les auteurs de la lettre ouverte au chef de l'État se sont auto-exclus de cette famille politique, qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là? C'est une décision que le bureau politique prend pour exclure ces personnalités de la famille politique du chef de l'État, ou c'est un simple constat fait par le bureau politique?
Merci mon frère Guy Maté pour l'honneur que vous me faites en m'invitant à cette émission aux côtés de l'honorable Didier Molisso qui se trouve être mon chef hiérarchique, ça veut dire le secrétaire général adjoint de la majorité sous l'autorité de qui je travaille jusqu'en ce moment. Je voudrais qu'à la faveur de cette émission nous puissions éclairer la lanterne de notre population au-delà
des... Vous avez décidé d'exclure, de chasser ces personnalités de la majorité présidentielle, ou c'est juste un constat que vous avez fait?
Je pense que ces personnes ont usé de leur liberté d'expression, qui est constitutionnelle, mais une liberté d'expression probablement qui a heurté le contrat, le contenu du contrat politique qui les lie à d'autres dans les cadres de la MP. Il s'agit de mon opinion personnelle. Mais au-delà de l'exercice de leur liberté d'expression, il est important de savoir que nous trouvons dans les contextes d'un combat politique pour l'exercice du pouvoir d'État. Et vous savez, l'exercice du combat politique se réfère toujours au repère de l'art de la guerre. Et surtout dans les contextes préparatoires des joutes électorales, comme c'est le cas maintenant. Je disais, il se réfère au repère de l'art de la guerre. Pourquoi? Parce que lorsque vous devez aller en guerre dans les cadres d'un corps, une armée, une plateforme politique, un parti politique, vous devez vous rassurer si vous avez encore les mêmes convictions par rapport aux valeurs qui fondent votre action politique solidaire, des valeurs pour lesquelles vous devez être prêt à mourir à tout moment. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, vous avez l'impression que les auteurs de la lettre partagent encore les mêmes valeurs politiques, les mêmes valeurs fondatrices de la majorité présidentielle avec d'autres?
Alors, lorsque vous vous rendez compte que vous n'avez plus les mêmes convictions au sein de cette famille politique, vous pensez que l'unique solution, c'est de chasser, d'exclure
ceux
qui ont des points de vue différents des vôtres?
Deuxième repère, c'est qu'il faut savoir situer son action politique dans les temps et dans l'espace. Est-ce qu'il était opportun d'adresser à l'autorité morale de la majorité présidentielle une lettre ouverte dans le contexte politique actuel? Troisième repère, il faut bien pouvoir c'est situé dans une hiérarchie. L'autorité morale de la majorité, c'est le chef de l'État, c'est le prince. Est-ce que on s'est bien situé, les auteurs se sont bien situés par rapport à lui, en s'adressant à lui de la manière dont ils l'ont fait? C'est ma réflexion personnelle. Il faut bien savoir s'inscrire dans une hiérarchie lorsqu'on s'engage dans un combat politique. Et quatrième repère, c'est qu'il faut savoir cultiver la discipline. Il me semble que pour n'avoir pas peut-être évalué ces repères convenablement, les auteurs de cette lettre ont fait un choix délibérée dont ils sont amenés à assumer les conséquences maintenant. C'est ma réflexion personnelle, vous comprenez. Et donc, voilà ma réflexion en ce moment. J'ai dit qu'il s'agit, la politique c'est aussi cela. C'est aussi cela, ça veut dire savoir opérer ses choix, savoir opérer son choix à tout moment. Il faut être courageux et assumer cela. Maintenant, est-ce que à travers cette lettre, les amis se sont adressés au chef de l'État, au président de la République ou à l'autorité morale de l'AMP? C'est ça qu'il faut clarifier également, vous voyez. Et donc, cet amalgame fait en sorte qu'aujourd'hui, il est revenu au chef de pouvoir, il a fait un choix également, je pense, de pouvoir user soit de la flexibilité ou de la rigueur. Et ici, on voit que le chef a fait recours à la rigueur, probablement pour rappeler les troupes à l'ordre. Nous sommes à la veille des joutes électorales, il est important de savoir que nous sommes dans les cas de l'exercice du pouvoir d'État, nous voulons le conserver, et pour le conserver, il est important de rappeler les troupes à l'ordre et d'appeler tout le monde à se ranger derrière.
Voilà, vous avez évoqué plusieurs facteurs, notamment la liberté d'expression qui a heurté les contrats qui lient ces personnalités à la MP. Vous vous êtes rendu compte, n'est-ce pas, que vous n'avez plus les mêmes convictions avec ces personnalités, et vous demandez aussi qu'il faut cultiver la discipline. Et vous pensez que à cause de ces facteurs, il fallait nécessairement chasser ces personnes de la famille politique sur l'État. Et vous ne pensez pas qu'il y avait possibilité de vous mettre autour d'une table pour essayer, n'est-ce pas, de leur donner l'occasion de pouvoir, n'est-ce pas, argumenter?
Je pense, mon frère Guimaté, c'est encore ma réflexion personnelle, lorsqu'on se situe dans la position d'un partenaire politique, parce que vous savez, soit on se considère en ce moment, à un moment donné, comme étant ami de l'autorité morale, en ce moment-là, on est à côté, ou soit on se considère comme étant son collaborateur, en ce moment-là, on est dans la hiérarchie normale. Alors, on a le choix soit d'être dans l'insoumission, ou soit dans la soumission. C'est comme ça. Et du point de vue du chef, il a le choix d'être flexible ou d'être rigoureux face au comportement de ces gens-là. Il me semble qu'en ce moment, vu la nécessité et le contexte, le chef ait choisi d'être rigoureux pour appeler tout le monde à s'arranger afin d'aller à la conquête et à la conservation de l'exercice du pouvoir d'État.
Monsieur Franklin Chamala, dès lors que les personnalités concernées elles-mêmes n'ont pas dit formellement qu'elles quittaient votre famille politique, vous ne pensez pas que le bureau politique a conclu hâtivement?
Je vous ai dit que le combat politique se réfère au repère de l'art de la guerre. Dans l'art de la guerre, il y a ce qu'on appelle la simulation. Vous comprenez? Et la politique, c'est aussi l'espace où on ne dit pas toujours ce que l'on pense. Vous comprenez? Il appartient au destinataire du message de pouvoir comprendre les non-dits. Bon, ici, et donc, la lettre, elle est claire. C'est une troisième lettre qui arrive. Dans un contexte comme celui-ci, il est revenu à l'autorité morale d'en tirer les leçons, et les leçons sont notamment vont dans le sens des décisions qui ont été prises. Je dis
notamment la révocation de M. Olivier comme état du gouvernement et la révocation de M. Pierre Lumbi en tant que conseiller spécial chef de l'État en matière de sécurité.
C'est un choix que le chef a fait. Il aurait pu être flexible comme par le passé, parce que les gens savent de lui qu'il est très patient. Il aurait pu être flexible, mais cette fois-ci il a choisi la rigueur, vous comprenez, et c'est cela.
Merci M. Didier Molichot, député national cadre du MSR. Vous êtes secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle. Vous êtes-vous exclu de la majorité présidentielle à travers la lettre que vous avez adressée au chef de l'État?
Je vous remercie de l'occasion que vous me donnez d'éclairer la lumière de vos auditeurs, nos auditeurs sur cette question. Vous savez qu'il y a un principe universel qui dit que les compétences sont d'attribution. On ne peut pas se réveiller. Vous avez vu M. Franklin, quand il est venu ici, il a dit qu'il est communicateur de la majorité. Il ne pouvait pas se réveiller un matin comme ça et devenir communicateur de la majorité. Ça veut dire qu'un jour, on a décidé de lui conférer ses compétences. Le bureau politique de la majorité présidentielle est un organe qui est défini dans la charte de la majorité présidentielle. Et le mécanisme de prise des décisions au niveau de la majorité présidentielle est aussi codifié par la charte de la majorité présidentielle. Le barème des sanctions et aussi codifié par la charte de la majorité présidentielle. La question qu'on est en droit de se poser est simple. La réunion du bureau politique de ce mercredi 16 septembre est-elle une réunion statutaire de la majorité présidentielle? Comme secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle, j'ai envoyé le message pour informer le membre du bureau politique qu'il y avait une réunion. Et la réunion a été convoquée par l'autorité morale et il a demandé au secrétaire général de présider la réunion avec un ordre de jour bien déterminé. Si je tiens à préciser ça, c'est pour dire que la procédure des prises de décision ou les modalités de fonctionnement de la majorité sont claires. Si on convoque une réunion du bureau politique, qui est un organe d'orientation et de décision, pourquoi l'autorité morale a convoqué cette réunion? L'ordre du jour était clair pour permettre aux membres du bureau politique de débattre du contenu de la lettre. Donc, il ne faut pas prêter des intentions à l'autorité morale. Il ne peut pas en même temps demander qu'on convoque une réunion et en même temps signer des ordonnances parce qu'on dit cette fois-ci il devait être dur, ceci, mais les contenus de la lettre, il l'avait. Et c'est lui-même qui décide qu'on convoque une réunion et c'est en allant à la réunion que ce qui s'est passé, s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé à la réunion du bureau politique? Nous entrons à la réunion du bureau politique, le président des séances, qui est le secrétaire général de la majorité, donne l'ordre du jour, qui était un seul point, les débats sur le contenu de la lettre. Il propose une méthodologie. Le secrétaire général demande à ce que les gens se retrouvent en deux groupes, les signataires de la lettre et les non-signataires de la lettre, qu'il y ait une concertation et qu'après concertation, qu'on débatte de la lettre. Alors, au retour, au lieu de débattre de la lettre, on commence à faire un réquisitoire sur ceux qui ont écrit la lettre. Mais ceux qui ont écrit la lettre, ils ont soulevé des questions essentielles, existentielles pour notre nation. Et l'autorité morale qui a demandé qu'il y ait réunion, il a voulu que les membres du bureau politique débattent du fond de la lettre. Alors, au lieu de débattre du fond de la lettre, on commence un réquisitoire sur la procédure.
Alors, pourquoi en dépit de ces déviations, en fait, ce qu'on peut appeler déviations que vous avez constatées, pourquoi, en dépit de cela, vous n'êtes pas resté dans la salle, n'est-ce pas, pourvu que vous puissiez avoir l'occasion de prévaloir vos points de vue?
Qu'est-ce qui s'est passé? Un des membres de G7 demande la parole par motion. Et le sens de la demande de la parole, c'était pour demander au président des séances de revenir sur le fond du problème. Parce que bon, l'autorité morale n'a pas demandé que les bureaux politiques se réunissent pour qu'on fasse un réquisitoire. Si tel était le cas, la charte de la majorité présidentielle est claire.
Et on donc, met en place. On ne vous a pas écouté, c'est pourquoi vous avez quitté la salle.
Non, c'est pas qu'on n'a pas écouté. C'est parce qu'on n'a pas voulu faire ce que l'autorité morale a demandé.
On n'a pas respecté l'ordre du jour.
L'ordre du jour était clair, discuter du fond de la lettre. Alors, si c'est pour un réquisitoire, la majorité présidentielle, dans sa charte, est claire. On met en place une commission ad hoc. Si c'était une commission disciplinaire, ça se comprendrait. Mais ici, c'était une réunion du bureau politique avec un ordre du jour bien précis.
Et donc, il n'a pas s'agi de l'auto-exclusion comme le bureau politique l'a dit.
Et là, je suis en train de me poser des questions. Qu'est-ce que vous appelez bureau politique? Quand le ministre de la Communication rend compte d'une réunion qu'il appelle une réunion du bureau politique, je suis en train de me poser des questions.
Lui-même étant membre de ce bureau politique.
Oui, mais le bureau politique est organisé. Qui est porte-parole du bureau politique? Ce n'est pas le ministre de la Communication. Le porte-parole du bureau politique existe. Et de deux, une réunion du bureau politique ne prend pas des décisions. Une réunion du bureau politique prend des résolutions.
et ces résolutions sont transmises à l'autorité morale. Qui prend des décisions?
Monsieur Didier Moluccio, entre-temps, la situation a rapidement évolué avec la révocation de M. Pierre Lungi en tant que conseiller spécial chef d'État en matière de sécurité, M. Olivier Kamitatou en tant que ministre du plan. Comment vous analysez cette évolution de la situation, cette évolution rapide de la situation?
Vous savez, moi, je ne veux pas juger, me mettre ici à juger ou me mettre ici à débattre de la décision du président de la République. Parce que ces décisions, il les a prises comme président de la République. Je ne peux pas me permettre, moi, de passer ici sur une antenne d'une radio pour commencer à débattre de la décision du président de la République.
Merci, professeur Joseph Moudimbi, professeur à la faculté des sciences sociales, département des sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. Bonsoir, professeur.
Bonsoir, monsieur Green.
Voilà, comment vous analysez cette situation?
Ok, merci pour la parole que vous m'accordez. Mais avant toute chose, je voudrais quand même saluer les co-débatteurs et l'ensemble des citoyens congolais qui nous suivent en ce moment. D'entrée de jeu, je voudrais dire ceci, que personne ne peut pas faire route ensemble s'ils ne partagent pas les mêmes idéologies ou s'ils ne partagent pas le même langage. Ce qui est arrivé est tout à fait normal, parce que au sein de la majorité présidentielle, il y a déjà deux visions des choses. Donc il est tout à fait correct que il y ait, bon, je sais que nous, Congolais, nous sommes tellement riches en terminologie, qu'il y ait exclusion ou auto-exclusion, parce que on n'a plus les mêmes intérêts à défendre, on n'a plus encore les mêmes idéologies. Comme vous le savez, en politique, les alliances se font et se défendent toujours selon les intérêts. Mais le problème que nous pouvons nous poser est le suivant. Pourquoi on a exclu le groupe et le groupe G7? Les raisons fondamentales sont-elles banales ou bien ce sont des raisons fondées? Alors, je me pose à mon niveau la question de savoir rappeler au président de la République de respecter la Constitution. Quel est le péché que l'on commet? Parce que quand vous prenez toutes les différentes constitutions à travers les différents systèmes politiques qui existent, il est reconnu au président de la République d'être le garant de la nation et dans l'exercice de ses fonctions, il doit veiller au strict respect de la Constitution. Alors, si il est arrivé que ce groupe-là soit exclu de la majorité présidentielle, il s'avère donc évident que la majorité présidentielle a un agenda contraire à celui qui a été présenté par le groupe de sept. Alors, j'ai suivi le représentant de la majorité présidentielle dire « Nous sommes dans un combat, et c'est bien beau, on est dans un combat, pas un combat pour la majorité présidentielle, mais un combat pour le peuple congolais. » Donc, c'est vrai. Les partis politiques visent, entre autres, à concevoir, conquérir et exercer le pouvoir le plus longtemps possible. Mais on exerce le pouvoir le plus longtemps possible dans le strict respect des limites fixées par les lois du pays.
Professeur?
Donc, on ne va pas. Oui.
Oui, vous avez affirmé que deux personnes ne peuvent pas faire route ensemble lorsque elles ne partagent plus les mêmes convictions. Vous pensez qu'il n'était plus possible, n'est-ce pas, à ce moment-ci, il n'était plus possible d'essayer d'harmoniser les points de vue?
Bon, tout dépend du climat qui a régné. Bon, si on a senti dans le temps des uns comme des autres un certain extrémisme, il est bien indiqué que, bon, lorsque les violents ne s'accordent pas, bon, que les uns les autres prennent, quoi ça, des distances. Alors, voilà donc ce que je voulais dire. Moi, ici, je voudrais proposer tout simplement, c'est que on aide le président de la République à prendre de bonnes décisions. La majorité présidentielle est constituée, non pas pour cette majorité, mais elle est constituée pour la population. Souvenez-vous, nous ne devons pas perdre la mémoire. Il y a même un musicien qui a son âme qui a dit entourage et ça la camadé. Donc c'est vrai, quand on est aux côtés du chef, on doit l'aider de manière à ce qu'il prenne de bonnes décisions, et les bonnes décisions sont celles qui concourent à la réalisation de l'intérêt général, qui concourent à la satisfaction des besoins et à la résolution des problèmes de la population.
Professeur
Moudimbi, voilà un peu ma petite lecture que je peux faire à ce niveau.
Professeur Moudimbi, était-il prudent de la part du groupe des sept partis politiques de la majorité présidentielle qui avait rédigé, qui avait adressé cette lettre au chef de l'État, était-il prudent de leur part d'utiliser la même approche pour la troisième fois, dès lors qu'ils se sont rendus compte que les deux précédentes démarches ne leur avaient pas permis, n'est-ce pas, d'obtenir gain de cause?
Monsieur Guy, je m'excuse parce que je n'arrive pas à vous saisir.
Oui, j'ai demandé s'il était prudent de la part de ces groupes, de cette partie politique, de continuer à utiliser la même approche, d'utiliser la même approche pour la troisième fois, dès lors qu'ils se sont rendus compte que la même démarche a été menée deux fois et qu'ils n'avaient pas obtenu, au travers de cette démarche, ils n'avaient pas obtenu gain de cause. Est-ce qu'il fallait continuer à utiliser la même approche?
Je m'excuse.
Comment vous analysez comment
je ne vous saisis pas.
Oui, comment vous analysez l'approche utilisée?
Oui, monsieur Guy, je vous écoute.
Professeur? Ok, on va essayer de vous rappeler. Hein.
Allô, je vous écoute.
Ça va maintenant? Allô, professeur?
Oui, ça va.
Oui, j'ai demandé.
Oui, je vous raconte.
Voilà, j'ai demandé est-ce qu'il était prudent de la part de ces cette partie de la majorité présidentielle de pouvoir utiliser la même approche pour la troisième fois, à partir du moment où ils se sont rendus compte que les deux précédentes démarches n'avaient pas, ne leur avaient pas permis, n'est-ce pas, d'obtenir gain de cause.
Bon, de toute façon. Bon, je crois que.
Vous n'avez pas compris la question.
Si, par exemple, ces mécanismes-là ne sont pas mis à leur disposition pour pouvoir bien s'exprimer et que la voix la mieux indiquée, c'était. Vous savez, quand les gens arrivent à écrire, cela signifie que, quelque part là, il n'y a pas de dialogue. Parce que s'il y a dialogue, s'il y a. Il y a des concertations où les gens peuvent s'exprimer de manière franche. Je crois qu'on n'arriverait pas aux correspondances. Mais si, par exemple, on constate que le moyen de pouvoir s'exprimer librement ici, par la parole, à travers le dialogue, ces moyens-là ne sont pas disponibles ou ne sont pas offerts, alors à ce moment-là, on peut facilement recourir à d'autres moyens, dont notamment les écrits.
Oui, professeur, vous avez semblé, vous avez dit qu'il faut qu'on aide les chefs de l'État à prendre des bonnes décisions, et vous avez semblé, à travers cette pensée, fustiger l'entourage du chef de l'État. Quels sont les éléments que vous détenez qui attestent que l'entourage du chef de l'État les désoriente?
Bon, de toute façon, je me dis toujours que, en politique, hein, on doit tabler sur les alliances. Vous voyez, par exemple, le poids de tous ces partis ici qu'on a mis de côté. Bon, ce ne sont pas quand même des partis qu'il faudrait minimiser. Regardez, par exemple, le MFR. C'est, sur le plan purement ici de la puissance démographique, c'est le parti qui vient en deuxième position. Et je suis en train de me dire ceci, que, bon, c'est vrai, cette décision d'exclusion arrive tout simplement parce que leur nombre, je vois ici 78 membres, ça ne permet pas à ce que l'opposition actuelle devienne majorité au Parlement. Or, si ils étaient plus nombreux et qu'ils basculaient pratiquement dans le camp de l'opposition au niveau du Parlement, il y aurait des changements importants, non seulement au niveau de l'Assemblée nationale, mais aussi au niveau du gouvernement, parce qu'à ce moment-là, le Premier ministre viendrait de la nouvelle majorité qui serait constituée.
Merci, professeur.
Alors, ce qui fait que cela risquerait vraiment de fragiliser et quoi que la majorité, parce que ce qui est évident, lorsqu'on exclut certains alliés, tels que nous le voyons ici, en tout cas, cette décision-là ne contribue pas à la consolidation de la majorité.
Merci, professeur Moudimbi. Merci. Franklin Kamala, il y a une question qui vous est adressée. Elle vient de Bukavu, au sud de Kivu.
Amos Missima du PCP, j'appelle à partir de la ville de Bukavu, province du sud de Kivu. L'attitude que cette famille politique vient d'afficher à l'égard du G7 prouve à suffisance combien le débat démocratique n'est pas au rendez-vous au sein de la majorité présidentielle. Voilà pourquoi le peuple congolais ne peut rien attendre de démocratie auprès des gens qui ne sont pas à esprit démocratique. Toutefois, nous demandons à ces frondeurs de s'assumer en déposant leur démission aux différents postes qu'ils occupent jusque-là dans la majorité présidentielle et rejoindre ainsi l'opposition en guise de mener le combat ensemble afin de faire respecter la démocratie en RDC. Dans le cas contraire, c'est une mise en scène, théâtre, une mascarade, voire une aventure ambiguë.
Oui, Franklin Kamala.
Non, je ne vais pas me permettre de réagir à cette question, observation de l'auditeur, mais je voudrais faire une petite mise au point sur les motivations telles que comprises par le professeur Modimbi, qui serait à la base de la lettre, parce qu'il estime que...
C'est parce que les sept partis ont rappelé au chef de l'État de respecter la Constitution que vous les avez sanctionnés.
Mais voyons...
Selon le professeur Modimbi.
Voilà, la violation...
Mais c'était ça même, ça, les contenus même de la lettre.
Mais justement, mais la violation de la Constitution ne se présume pas. Elle se constate, n'est-ce pas? Et peut-on, si c'est cela la motivation, peut-on nous dire où et quand on a constaté que les chefs avaient posé des actes qui ne sont pas conformes à la Constitution pour qu'il faille le rappeler au respect de la Constitution? Ça ne se présume pas. Et donc nous ne pouvons pas commencer à poser des actes d'ampleur et complexes sur base des préjugés. C'est impossible. D'autre part, dans cette même lettre, on met à l'index l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et on dit que cet arrêt-là est venu ajouter de l'huile au feu. Mais voyons, la vocation de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas de plaire à qui que ce soit. Ce n'est pas ça sa vocation. À l'instar d'autres institutions, je pense que les institutions républicaines ont vocation de trouver des réponses aux problèmes que pose la gouvernance de l'État, même quand ce seraient des problèmes imprévus, c'est-à-dire qui n'ont pas été inscrits dans une programmation. Ça, c'est la vocation des institutions républicaines. Et pour avoir voulu contribuer à trouver des solutions à un problème imprévisible qui n'a pas été inscrit sur le chronogramme de la mise en œuvre de la décentralisation. L'arrêt a péché où? Le gouvernement a péché où? Le chef de l'État s'est mêlé de la question comment?
Et ça, c'est un débat qui devait se faire au sein de la majorité présidentielle.
Mais le débat, il s'est fait dans un cadre voulu, vous comprenez?
Mais vous n'avez pas voulu les écouter.
Il ne s'est fait pas par les médias interposés. On n'a pas besoin d'une lettre ouverte pour solliciter un pareil débat. Vous comprenez? Et donc, on s'adresse à l'autorité morale, ou on s'adresse au chef de l'État. On n'a pas besoin de ça quand on est chef de parti et quand on est de surcroît membre du bureau politique. Et ma réflexion est celle-là. J'ai dit, est-ce que nous n'avons pas des problèmes doctrinaux à la date d'aujourd'hui? Est-ce que nous croyons encore aux mêmes valeurs?
Merci Didier Moluchot. Il y a une question qui vous est adressée. Elle vient de Kikwit.
C'est Félix Sefumpete à Kikwit. Pourquoi ce G7 a attendu longtemps pour sortir les ongles? Et quelle influence politique a ce parti dans l'AMP? Le glissement est une réalité. Les sénateurs et les députés provinciaux l'ont fait en 2011. Tous étaient élus comment? C'est une distraction.
Oui, Monsieur Didier Moluchot. En 2011, vous n'avez pas dénoncé le fait que les sénats ainsi que les assemblées provinciales avaient fait ce qu'on appelle aujourd'hui les glissements. Vous n'avez pas dénoncé ça. Pourquoi vous dénoncez aujourd'hui quand il s'agit, n'est-ce pas, du chef de l'État qui n'a pas encore fait ces glissements-là? On dirait que c'est un procès d'intention que vous faites à l'endroit du chef de l'État.
Oui, merci beaucoup pour notre ami qui pose cette question. Aujourd'hui, on parle bien de la troisième lettre, donc ce n'est pas aujourd'hui seulement que les groupes de sept partis politiques ont tiré la sonnette d'alarme sur les inquiétudes qui étaient le leur.
au regard de l'évolution. Ce sont des lettres ouvertes. Et c'est ce que vous devez aussi Santin Chamala.
Oui, mais
pourquoi n'avoir pas adressé au chef de l'État des lettres fermées? Chaque moment vous vous adressez au chef de l'État, c'est toujours à travers des lettres ouvertes.
Oui, mais je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il appelle lettre ouverte. La dernière lettre a été adressée au président de la République, autorité morale de la majorité présidentielle, avec copie aux membres du bureau politique. Et c'est moi, secrétaire général adjoint, qui était porteur du courrier. Le courrier était fermé. Aujourd'hui, vous avez vu vous-même, on a dit que le bureau politique s'est réuni. Quand le bureau politique s'est réuni pour prendre des résolutions, ils doivent rendre compte à l'autorité morale. Mais qui a rendu public les conclusions ou le déroulement de la réunion du bureau politique? Est-ce que c'est les groupes de sept partis politiques ou c'est les autres? Parce que les réunions du bureau politique sont des réunions qui se tiennent à huis clos. Et les résolutions doivent être rendues à l'autorité morale pour qu'il en prenne décision avant qu'il apprenne connaissance avant qu'il prenne décision. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est quoi? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un groupe de gens qui sont venus dans une réunion et avant même de remettre les résolutions à l'autorité morale, ils rendent public le déroulement de la réunion. Qu'est-ce qui nous dit que ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont rendu public la lettre qui était adressée à l'autorité morale? C'est ça la question.
La lettre n'était pas ouverte.
La lettre n'est pas ouverte. C'est une lettre adressée à l'autorité morale avec copie aux membres nommément cités du bureau politique.
Comment est-elle trouvée dans la presse?
Mais comment aujourd'hui la presse a eu connaissance du déroulement de la réunion qui est censée être une réunion à huis clos? Vous allez dire aussi que la réunion du bureau politique d'aujourd'hui était une réunion publique? Réunion à huis clos.
Monsieur Diemolucho, quels sont les faits sur lesquels vous basez, n'est-ce pas, et qui vous pousse à rappeler au chef de l'État qu'il doit respecter la Constitution?
Les débats au sujet de contenu de la lettre a eu lieu hier sur votre antenne. Les points qui ont été soulevés ont été suffisamment abordés. Et c'était ça l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Le chef de l'État voulait que le membre de son bureau politique débatte. Et je suis vraiment heureux de constater qu'un des auditeurs a dit « ça veut dire qu'il n'y a pas de débat démocratique au sein de la majorité présidentielle ». Et ça serait triste de le constater, parce qu'aujourd'hui, on a une occasion. Le chef de l'État a donné une occasion à sa famille politique d'engager un débat démocratique sur des questions de fond. Au lieu de faire un débat sur les questions de fond, on verse sur des questions de procédure. Et c'est chaque jour qu'on est en train d'écouter ça. Il fallait écrire.
Vous occupez, en fait, le G7 à lui seul occupe 78 sièges à l'Assemblée nationale. Et maintenant que le divorce est consommé, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous continuez à rester... on dit que vous n'êtes plus membre de la majorité présidentielle, mais vous êtes à quel niveau? Où est-ce qu'on peut vous situer?
Les élus de cette partie de la majorité présidentielle, vous voulez dire?
Non, vous, membres de ces partis politiques.
Les élus de ces partis politiques?
Oui, parce que ce sont les partis qui ont
Vous savez que le mandat est non impératif. Ça, c'est clair, c'est la Constitution qui le dit. Et on a un mandat, c'est parce qu'on veut représenter le peuple pour l'intérêt général. Et moi, j'étais content quand M. Franklin a commencé cette émission en disant que les valeurs fondatrices de la majorité... Mais les valeurs fondatrices de la majorité sont lesquelles? Les valeurs fondatrices de la majorité sont des valeurs républicaines. Et je crois que les sept partis ont rappelé dans leur correspondance les valeurs autour desquelles était fondée la majorité.
Vous restez député national parce que vous avez été élu, n'est-ce pas, par le peuple, mais vous êtes dans quelle famille politique?
Jusqu'aujourd'hui, nous supposons que les débats peuvent se poursuivre, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne vais pas dire que je suis député de l'opposition, parce que je ne partage pas les mêmes valeurs que ceux de l'opposition. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent auto-exclusion, mais auto-exclusion, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Merci. Professeur Moudimbi, il y a une question qui vous est adressée, elle vient une fois de plus, c'est de Bukavu au sud Kivu.
Norbert Mohamed de Bukavu au sud Kivu. Je pense qu'il ne suffit pas au groupe des sept de s'auto-exclure de la majorité politique. Encore faudrait-il qu'il montre clairement qu'il appartient aujourd'hui réellement à quel camp politique pour que désormais l'opinion soit absolument convaincue de sa préoccupation politique, de sa lutte contre les tendances ou les velléités dictatoriales de la majorité en RDC. Sinon, un flou artistique risque d'être constamment entretenu dans ce dossier pourtant intéressant.
Professeur Moudimbi. Allô, professeur Moudimbi.
Okay. Merci. Oui, allô. Bon, merci. Je salue d'abord l'intervenant à partir de Bukavu. Et je voudrais tout simplement dire que, bon, à ce niveau-là, effectivement, il a raison. Dès lors que, d'abord, je voudrais d'abord préciser au niveau de l'auto-exclusion ou bien de l'exclusion. Si c'était l'auto-exclusion, parce que ne jouons pas avec les jeux de mots, si c'était l'auto-exclusion, je crois que le groupe de 7, je choisirais un rapporteur qui rendrait publique la décision de ne plus encore appartenir face à la majorité présidentielle. Mais étant donné que c'est le ministre des chargés de l'information qui a rendu public face à cette auto-exclusion, nous pouvons dire sans peine que le groupe des 7 a été exclu. Alors, quand on n'est pas face à la majorité, donc au niveau du Parlement, nous avons deux camps. Si on n'est pas à la majorité, alors on est dans l'opposition. Mais je voudrais peut-être continuer avec une idée que j'ai avancée bien avant, que bon, le groupe des 7 représente au niveau de l'Assemblée nationale 78 membres. Bon, même s'ils allaient du côté de l'opposition, eux-mêmes ne l'ont pas dit, ça c'est moi qui fais mes analyses, bon, ils ne permettraient pas à l'opposition de devenir majoritaire au niveau du Parlement.
Oui, professeur.
Et je comprends pourquoi aisément on a dit non, voilà, ils se sont auto-exclus. Mais s'ils représentaient vraiment un nombre important au niveau de l'Assemblée nationale, au point de faire de l'opposition actuelle une majorité, peut-être que là, la majorité présidentielle actuelle prendrait quand même soin de réfléchir plusieurs fois et ferait un effort pour créer un dialogue de manière à éviter cette dissidence.
Professeur Moudimbi, nous sommes presque à la fin de l'émission, vous allez devoir conclure. Comment vous entrevoyez l'avenir de la majorité présidentielle avec tous ces problèmes?
Bon, je demanderai à la majorité présidentielle si réellement elle voudrait, comme je l'ai entendu, qu'on conserve le plus longtemps possible, de bien vouloir maintenir ses alliés. Et cette politique-là d'exclure les alliés, tout ça risquerait encore de la fragiliser davantage. Je demanderai aussi à ce qu'on développe la culture du respect des textes qui nous régissent, c'est ça ce qui va amener notre pays au bonheur tant souhaité par l'ensemble de citoyens congolais.
Merci, professeur Moudimbi. Franklin Kamala, comment vous entrevoyez l'avenir de la majorité présidentielle? Vous avez suivi le député Didier Moluccio qui dit qu'ils sont toujours ouverts au dialogue.
Non, je voudrais ici joindre ma voix à celle des autres pour constater avec vous que nous ne sommes pas dans un jeu de ristourne. Nous sommes dans un combat pour l'exercice du pouvoir d'État. Et ce combat-là, il a ses exigences. On s'y conforme, on est dans le combat. On ne s'y conforme pas, on quitte les combats. C'est clair. Bon, maintenant, les amis, j'imagine, et ça c'est ma réflexion personnelle encore, ils ont voulu peut-être très bien faire, ils ont voulu être au-dessus du bon. Mais quand vous êtes au-dessus du bon, vous n'êtes pas dans le bon. C'est le prince qui dit. Or, le combat, il se mène dans le bon. Il est important d'avoir la mesure. Il est important de savoir opérer les calculs, il est important de savoir faire les combinaisons, parce que c'est quand on fait les bonnes combinaisons que l'on peut aller vers la victoire. Il me semble ici que les amis avaient peut-être un topo, ils avaient un projet vers lequel ils veulent aller, ils ont privilégié les spectaculaires, et les conséquences qui découlent du spectaculaire sont là.
Et vous pensez que le départ de ces 78 députés qui appartenaient à la majorité présidentielle, le départ de ces 78 députés ne va pas avoir une incidence néfaste?
Je pense que les voies de recours existent. Les voies de recours existent et la charte les prévoit. Les voies de recours existent.
Merci. Didier Moluccio, comment vous entrevoyez l'avenir de cette majorité présidentielle?
Si la majorité présidentielle verse dans les spectacles, la majorité présidentielle court un risque de disparaître. Et les 7 partis ont montré qu'ils étaient très responsables. Et aujourd'hui, il y a les autres qui se disent les autres partis de la majorité qui ont versé aujourd'hui à des spectacles. Je remercie vraiment Franklin pour me donner les termes ces spectacles qu'ils ont offerts aujourd'hui à la République n'est pas digne d'une majorité qui veut conserver le pouvoir.
Mais vous restez toujours ouvert au dialogue.
Pas avec des spectacles comme celui qu'on a offert aujourd'hui à la population. Nous voulons être responsables parce qu'une majorité qui est au pouvoir comme la nôtre, qui est au pouvoir depuis plus de 10 ans, c'est une majorité qui est adulte et responsable.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Claude Sala qui était à la technique. Merci à Alain Irung, Berry Franklin Luchaka, sous la supervision, n'est-ce pas, de Pelé Kipelamondo. À la présentation, Guy Maté. Merci et bonne suite du programme sur Radio Capi.